Chronique Nature, une chronique présentée par Hubert Debon.
Santé globale. Habitant au bord du fleuve Hérault, à la campagne, je bénéficie d'un environnement calme et tranquille qui était une source permanente d'émerveillement, de questions et de commentaires. Ces réflexions émergent au cours de mes promenades, de mes lectures, de rencontres ou de discussions avec des amis. Vous êtes sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, que vous pouvez écouter sur 89, 96.7 et 102.9 MHz ou en podcast à l'adresse électronique rphfm.org. À la fin de juin, j'ai été invité à une table ronde organisée à Montpellier, au bord du Lez, à la base nautique de la Valette Agropolis, donc au nord de Montpellier, sur le site de la Valette, dans le cadre du festival organisé par Agropol IT, IT c'est E-A-T, Manger comme on s'aime. Le thème en était santé globale. Les organisatrices avaient invité Laurent Chevalier, médecin nutritionniste, Laurent Brunel, président du Sivium Bio 34, et moi-même. La santé globale est un concept qui, à ma connaissance, a émergé il y a une vingtaine d'années dans la communauté des chercheurs du CIRAD en partant de la santé animale. Il s'agit de ne plus se limiter à la santé humaine, mais à tous les facteurs influençant notre santé et donc la santé du monde qui nous entoure. La santé des animaux, la santé des plantes, la santé des écosystèmes, etc. Nous pouvons faire l'hypothèse suivante, pas d'humain en bonne santé dans un environnement réduit, pollué et malade. Mais cela pose la question du devenir ou de la survie de l'homme dans l'espace, où la seule nature d'origine terrestre est lui-même. Pas de réponse. Le CIRAD, organisme qui a été mon employeur pendant plus de 40 ans, dont la mission est la recherche agronomique pour le développement, a lancé dès le début des années 2000 des projets de recherche sur la santé globale. Le déclic en a été la crise due au développement du coronavirus SARS-CoV-1 au tout début des années 2000, maladie présente aussi chez les chauves-souris. Je travaillais alors au Vietnam. Des amis étaient venus nous voir à Hanoï. Ils ont débarqué de l'avion avec des masques, car on leur avait dit de faire très attention, car une grande épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère, susceptible de contaminer l'humanité entière, commençait. Cependant, à Hanoï, les autorités estimaient que l'épidémie n'était pas avérée. Aucune précaution à notre niveau ne devait être prise. Cet épisode anxiogène dans certaines parties du monde, notamment au départ, à l'aéroport à Paris, a disparu aussi vite qu'il avait été annoncé. Il a provoqué le décès, cependant, de quelques centaines de personnes en Chine, à Hong Kong, en Asie du Sud-Est et à Taïwan. À la suite de cet épisode, les interrelations entre l'homme et les maladies des animaux sont revenues au premier plan des préoccupations des vétérinaires-chercheurs, notamment ceux spécialistes des élevages de volailles. Et des équipes de recherche internationales ont été mises en place dans différentes régions du monde. Les Antilles, la Réunion, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique de l'Est. Ces équipes rassemblent, et elles existent toujours, des chercheurs de différents pays et de différentes disciplines sur la santé des plantes et la santé des animaux, animaux d'élevage et sauvages. Elles abordent la santé animale et la santé publique vétérinaire selon des approches de type « une seule santé ». Elles tiennent compte des conditions de vie des éleveurs et des agricultures familiales. Ainsi, en Afrique de l'Est, autour des grandes réserves, les chercheurs travaillent aussi bien sur les animaux sauvages que sur les animaux d'élevage et leurs bergers et les chasseurs. L'agriculture a un objectif de produire des biens pour l'alimentation humaine, mais aussi pour des tas d'autres objectifs. Biocarburant, caoutchouc, bois, alimentation des animaux d'élevage. Pour cela, jusqu'à présent, elle a besoin d'espace, sans oublier l'agriculture pour l'énergie. Le virage vers une agriculture productiviste dans les années 50 et 60 s'est traduit par la mécanisation, l'utilisation des produits phytosanitaires. Les spécialités pharmaceutiques, aussi bien pour les soins aux animaux qu'à ceux des plantes. Et l'usage des engrais de synthèse comme l'azote. Et pour une diminution des coûts de production et faciliter le travail mécanique, la destruction des haies, le drainage et parfois la modification des cours d'eau. Jointe avec les progrès de l'urbanisation, nous avons donc assisté à une diminution extraordinaire des habitats pour la faune sauvage. Oiseaux, batraciens, mammifères, insectes, reptiles, etc. Par exemple, entre 1950 et 1980, dans le Schleswig-Holstein, donc en Allemagne, un tiers des haies ont été détruites. Cette perte d'habitat a entraîné inévitablement une perte de biodiversité. Au total, l'homme, par ses aménagements agraires, a modifié les écosystèmes initiaux agraires créés depuis des centaines d'années avec un appauvrissement de la faune et de la flore par la diminution des habitats et, sans oublier, l'emploi de nombreux biocides. En reprenant ma définition des différents éléments de la santé globale, j'ai abordé, au cours de cette table ronde, la diminution des habitats en tant qu'élément de la santé des écosystèmes, donc de la santé globale. Au bout de 10 minutes, la discussion n'a porté que sur un des éléments de la santé globale, l'alimentation. Il est sûr que les présences d'un nutritionniste de renom et d'un producteur en agriculture biologique ne pouvaient que conduire à parler de la qualité de notre alimentation. En effet, l'agriculture utilise énormément de produits sanitaires de synthèse. Nous en utilisons aussi pour nettoyer nos bureaux, nos lieux de travail, nos intérieurs, et donc nous absorbons des tas de produits de synthèse, aussi bien par les aliments en eux-mêmes, mais aussi par leurs contenants. Donc la principale conclusion de cette table ronde, au bout d'une heure et demie, a été de recommander la consommation de produits issus de l'agriculture biologique. La santé globale se résume donc à la santé humaine. L'homme est encore au centre de l'univers. Mais est-ce suffisant pour préserver la santé des écosystèmes qui nous entourent ? Nous n'avons plus, dans la plus grande partie du monde, d'habitats naturels. Ce sont au mieux des habitats semi-naturels, surtout en Europe. De plus, la faune et la flore qui y vivent doivent s'adapter à l'homme. Et ils le font très bien. Comme le sanglier dans l'Hérault et le Var, ou le moustique tigre en France. Nous devons donc cohabiter avec cette flore et cette faune et partager l'espace, que ce soit l'espace de l'eau, l'espace de la terre ou l'air. Est-ce que cela suffira pour vraiment répondre aux défis lancés par cette définition de la santé globale ? À chacun d'en décider. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Merci à Radio Pays d'Hérault et RPHU de me permettre de m'exprimer et à la technicienne de Saint-André-Sangonis, Solène.